Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
Notre invité du jour a fait des milliers d'entrevues, a posé des dizaines de milliers de questions, a reçu des dizaines de milliers de réponses. On imagine qu'avec tout ça, il est détenteur de 3 postdoctorats en sciences humaines. Salut, José Lito-Michaud.
Merci, Sylvain, de cette invitation-là. Je dirais juste que chaque entrevue m'a apporté certainement une réflexion sur la vie. Et je pense que j'ai décidé d'être un intervieweur assez jeune dans ma vie parce que je me disais, ça va m'extirper de ma propre vie à poser des questions aux autres.
Oui, mais à force de fouiller dans la vie des autres, est-ce qu'on finit par maîtriser la sienne? Comprendre la sienne?
Non, on finit par s'oublier parfois.
Ah.
Moi, je me suis oublié un certain temps. Quand je faisais le talk-show, on commence fort. Quand je faisais le talk-show de fin de soirée, on y va dans les confidences.
Ben oui.
Quand j'étais rendu au talk-show de fin de soirée, je venais de faire la radio tous les midis au réseau Rock Détente, pour ne pas le nommer. Puis je faisais la télévision tous les soirs. Je l'ai fait comme 7-800 cette année-là ou 1000. Mm-hmm. Et je me souviens de m'être dit, Seigneur, ça fait, tu te poses une question ou deux à toi. Ça serait intéressant. Ouais.
Et alors, si tu t'interviewais, ton entrevue commencerait par quel bout? Parce que je vais être bien sincère avec toi, là. T'sais, on lit des notes avant les entrevues, tout ça. Mm-hmm. Là, tu te dis, on commence par où avec José Lito-Michaud?
Oh, pourquoi cette question comme
bon,
ça?
Bon, c'est là? Ça, tu vois, tu commences déjà à poser des questions.
Non, mais ben, ça me vient
pour tout seul. Pour une phrase de Paul Arcas, si ça te dérange pas aujourd'hui, les questions vont partir d'ici.
et Paul a raison quand il dit ça, effectivement. Je dirais que c'est vrai que moi, quand je fais une entrevue, la première question est la plus fondamentale pour moi. Tout le temps. Je prépare aucune question à l'avance. Aucune. Je lis le rapport de recherche. Mm-hmm. Aucune question dans le rapport de recherche. Et puis là, à un moment donné, je mets la première. Moi, je dirais, si c'était moi, là, mettons, je dirais, là, qui viennent même, là, sans l'avoir vraiment préparé, je dirais, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu mènes autant de projets de front?
Ben, c'est une question que je me pose quand je regarde tout ce que tu as fait. Tu cours beaucoup. Mm-hmm. Tu cours après quoi? Parce que tu cours sur plusieurs pistes, tu sais.
Ouais.
Tu fais plusieurs sports.
Ouais, plusieurs sports, puis j'essaie d'être pas pire dans chacune des disciplines. Mais je dirais, parfois je réussis moins. Je dirais que c'est pas parce que je vais être une vedette. C'est ça que je me suis rendu compte. Quand j'ai écrit le livre La Gloire démystifiée, j'avais fait une série documentaire, La Gloire, mais à quel prix? Hey, mon grand étonnement, je fais un questionnaire à la fin. Ouais. J'ai rempli le questionnaire pour moi. Puis comme manager, j'avais plus d'ambition pour quelqu'un d'autre que pour moi.
Ouais.
J'étais prêt à faire beaucoup plus de sacrifices pour quelqu'un d'autre que pour moi. Donc je me suis rendu compte que ma recherche de reconnaissance sociale n'était pas aussi forte que je croyais qu'elle était. Et après ça, je me suis rendu compte que je cours après les choses parce que j'ai peur, pas d'en manquer. J'ai peur de pas tout faire parce que j'ai une obsession pour la mort. J'ai peur de pas de manquer un rendez-vous qui m'aurait fait jouir avec plaisir et bonheur. C'est ça ma quête à moi. Mais en même temps, il y a des moments, là, je parlais avec ma blonde tantôt, on regardait ce qui s'en vient, puis j'ai dit, il va falloir que je dise non à ça, puis sincèrement, parce que je veux me consacrer... Elle est tombée à terre, là. Elle me dit, ça se peut pas,
dire
tu vas
non.
Faire. Ben, dire non.
Mais t'entends dire, je vais dire non à ça, c'est ça qui l'a...
Oui, étonné en disant, c'est surtout dire non, parce qu'elle savait que ça m'intéressait l'autre affaire, mais j'ai dit, garde, faut que je me concentre peut-être plus sur 4-5. Déjà, 4-5, c'est beaucoup.
Oui.
À un moment donné, c'est 10-12, ça n'a plus de bon sens, parce que tu développes, puis d'un coup, c'est 4-5 ans après que tu vois ça dans la TV.
Oui.
Tu comprends?
L'autre fois, je lisais une entrevue que tu as donnée à un magazine, je me rappelle pas lequel, et tu disais, bon, évidemment, 2020, la pandémie, le cran d'arrêt, donc ça m'a fait du bien d'arrêter. Bon, le résultat au bout de ça, c'est un roman, trois mois tout au plus, qui est la suite de Dans mes yeux à moi, là, la série Olivier puis tout ça. Donc, il y a un roman, il y a l'émission de télévision que tu as faite.
José Lito au cœur du monde.
Au cœur du monde,
J'ai fait ça, et j'ai fait une série balado ailleurs sur une autre station.
À Cube.
Et j'ai fait aussi, à travers ça, la série que je vais préparer pour le chaos, l'autre côté pour TVA et Club Illico. Non, mais j'ai pas arrêté.
Chez les Michauds, ça s'appelle un cran d'arrêt, ça. Quand tu travailles, tu fais quoi?
C'est une très bonne question. Je vais te dire sincèrement ce qui s'est passé. Je me souviens encore je pense que tout le Québec et le monde entier s'est arrêté autour du 15 mars.
Ouais.
Je me souviens d'une séance de photos que je fais le 12 mars pour Radio-Canada pour justement José Lito au cœur du monde.
Ouais.
Je sors de ma voiture, Sylvain, je suis tellement brûlé, là. Je reviens de Miami. C'était pas une bonne idée, comme dirait l'autre. Mais à ce moment-là, 9, 10, 11 mars, on n'était pas affolés, là.
Non.
Et là, je reviens de Miami, et là, je me souviens, je fais la séance photo, puis le jeudi soir, je pense que c'est un 12, ils disent, faudrait peut-être que ceux qui sont partis en voyage vous confiniez, ben, fait 14 jours, pas de problème. Et à un moment donné, je dis à ma blonde, je sais pas, je vais être capable de continuer, je suis brûlé. Je je suis tellement brûlé. La plus belle affaire qui pourrait m'arriver, je l'ai dit, j'ai dit, ça serait qu'on reporte la diffusion de José Théo au cœur du monde et qu'on reporte le chaos aussi pour me permettre de me poser. 4 jours après, Radio-Canada m'appelle en disant, on va mettre ça à l'automne. Puis TVA me dit, on va le mettre plus tard. Je te jure. Et là, je me suis dit, j'aurais pu me reposer. J'ai dit, ben, j'ai continué à faire mes montages, parce qu'il fallait quand même que je vive livre des émissions. Et là, j'ai dit, bon, finis mon roman, finalement. Mais il y avait moins de pression, Sylvain. J'avais plus d'échéancier aussi serré.
OK, la pression n'était plus la même. En même temps, il a suffi que quelqu'un te dise non pour que toi, tu répondes oui. Et ça, c'est un trait chez toi.
C'est un trait chez moi.
Oui. Au moment où tu n'es pas supposé de, pour toi, c'est le début de la convention. Puis c'est là que tu pars.
Ben, c'est parce que je pense que honnêtement, il y avait une partie de moi qui était dans le déni complètement par rapport à la pandémie.
Oui.
Vraiment.
Ben, on était pas mal tous là.
OK, t'es d'accord avec moi.
Dans le temps des fêtes, on parlait d'une affaire qui...
Oui, en chaîne.
Ça a l'air que ça se passe là-bas. Là. C'est un petit peu bizarre. Je me rappelle encore d'une discussion au dernier souper de Noël.
Aussi.
C'était ça, c'est vrai, il se passe de quoi en Chine? Hein?
Au mois de février, c'était l'anniversaire de ma blonde, 65 ans, il y a 65 personnes dans ma maison.
Mm-hmm.
On a du fun, on a toutes les mains dans le même buffet.
Ben oui.
Puis tu dis, écoute, goûte à la pizza comme elle est bonne. Puis
on se donne la bise.
Oui, hein, puis hey, je ne l'ai pas vu, puis on embrasse quatre en même temps. Je veux dire, c'est comme une histoire, c'est une histoire hallucinante. Là, tu te dis, est-ce qu'un jour on va revenir à ça? Bref, moi, ça a fait en sorte que je me suis dit, j'étais un peu dans le déni, puis je me suis dit, quand j'écris, je suis tellement bien. J'avais tout coupé les repas de restaurant. J'adore le restaurant, mais les meetings. T'es toujours en urgence. Il n'y avait plus d'urgence. Il y avait juste, t'écris le matin, puis l'après-midi, tu fais tes autres montages. Je travaillais, mais pas avec la même affaire. Mais je m'étais promis, quand je finirais mon livre, et que j'aurais tout livré mes émissions à Radio-Canada, je me suis dit, après, l'année prochaine, ce sera plus pareil. Puis ça, je me suis dit ça. Puis c'est vrai que je suis en train de respecter, pour la première fois de ma vie, ce plan de match-là.
Est-ce que tu penses que ça sera plus jamais pareil?
Mais moi, je pense que la vie n'est plus pareille maintenant. Parce que notre vrai drame, là, pourquoi on a tant de cas de récidive de la COVID actuellement?
Ouais.
D'abord, c'est juste une pause. Elle est partie se reposer quelques jours là-bas, puis elle disait, je vais pogner à l'automne, attachez-vous. Là. Bon, il y avait une deuxième phase, puis tout le monde en parlait de cette deuxième phase-là. Mais on a eu le plus bel été, Sylvain, de notre vie.
Ouais.
Et c'était extraordinaire, cet été-là. Donc, on s'est dit, c'est passé, ça va être moins pire, on va être bien. Et on n'avait pas tout à fait compris la leçon.
Oui.
Là, je peux te dire qu'on a compris la leçon. Là, avec ce qui se passe actuellement, la vie ne sera plus jamais la même.
José Lito, quand tu abordes l'écriture de 3 mois tout au plus, le premier volet dans Mes yeux à moi, c'était très autobiographique.
Mm-hmm.
Là, on retrouve ton personnage, Olivier, 30 ans plus tard.
Oui, 32 ans plus tard.
Ben, à peu près.
Exactement ça.
Puis, il apprend pas une très, très bonne nouvelle.
Non.
Le titre le laisse sous-entendre 3 mois tout au plus.
Bien sûr.
Là, tu peux pas être autobiographique parce que tu parles de quelqu'un qui dépasse ton âge. Comment t'as fait la transition entre l'autobiographie et la fiction biographique, mettons?
Je dirais que c'est une très bonne question. C'est-à-dire que quand j'ai fait quand même Dans mes yeux à moi, j'ai toujours dit que c'est un récit romancé, parce que c'est Penel Pénacle qui disait une phrase extraordinaire, l'écrivain français disait toujours, à partir du moment où je raconte une histoire, c'est ma vérité.
Ça part dans quelque part.
C'est impossible autrement. Donc, je me souviens que quand j'ai fait ça, puis j'étais plus jeune à mon enfance, pour revenir sur cette enfance ballottée d'une famille à une autre, puis de la violence, puis tout ça. Mais une enfance que j'embrasse aujourd'hui parce qu'elle est salutaire dans ma vie. Elle m'a permis d'être... moi, je trouve qu'elle m'a permis d'être l'être humain que je suis préoccupé sur les autres.
Oui.
Beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai fait jusqu'à l'âge de 18 ans. C'était une vraie obsession pour moi d'arriver à 18 ans pour me sortir de là. C'est vrai. Mais quand j'ai eu l'idée de faire ce livre-là, j'ai jamais pensé faire une suite. C'est arrivé au printemps, en avril, durant la COVID.
Oui.
Mon personnage partait tout seul. Puis à un moment donné, plus j'avançais, plus c'était Olivier, j'avais d'impact. Je me disais, voyons, tasse-toi dans un peu, je peux se travailler tout seul. Là, je le voyais revenir en disant, oui, mais oublie pas que moi, je suis un enfant qui était ballotté. Puis je disais, oui, mais. Et tout d'un coup, j'ai fait. Là, je disais, qu'est-ce que tu veux que. Je te jure que c'était ça. Qu'est-ce que tu veux que je raconte?
Oui.
Mais parle donc de ta quête de trouver ton père biologique. C'est ça que je veux, puis c'est ça que toi, tu veux, José Théo aussi. Ça a l'air un peu schizophrène quand je te dis ça, mais c'est devenu comme une évidence. Non, j'ai pas eu cet échéancier aux allures du fin du monde. Et mon Dieu, que ça m'aidait à écrire, de savoir qu'on pouvait mourir durant le temps de la COVID.
Oui. Ce projet-là a été écrit en pensant à une télévision à un moment donné.
C'est inévitable.
Bon, c'est ça.
C'est inévitable, mais tu ne seras pas avant 2-3 ans.
Parce toi, tes projets sont plaçables à la télé. Cette opportunité-là, tu as un nom, tu es précédé, José Lito Michaud, et il est capable d'écrire des histoires qui se racontent bien. Donc, bingo, bienvenue à la télé.
C'est bien quand tu le résumes comme ça, mais ça ne ressemble pas tout à fait à ça.
Non, mais c'est pas aussi simple, là.
Non, il y a des complexités partout, mais c'est vrai que je le pense en fonction souvent de.
OK. Ben, c'est justement une complexité que je veux faire référence. Souvent, les scénaristes écrivent leur histoire, abandonnent le projet. Mm-hmm. Puis là, il y a un script éditeur qui embarque là-dedans, un réalisateur, et ce sont des gens qui, avec ton histoire à laquelle tu tiens tant, puis que tu aimes, c'est des gens qui arrivent avec du scalpel, puis là, qui coupent là-dedans.
Bien sûr.
T'es pas capable de supporter ça, toi, de voir quelqu'un qui va prendre ton œuvre. Tu dois te garder un veto carabiné.
Pas mal. Mais je dois te dire pourquoi moi je suis producteur dans la vie. Moi, je produis mes affaires pour une seule raison. Le contenu. Je veux que quand le diffuseur me dit ça marche pas, je ne l'ai pas entendu par quatre autres personnes qui l'ont interprété, je suis parfait. Qu'est-ce que vous voulez voir exactement? C'est pas pour le cash, parce que je leur mets toujours sur la table une grande partie. Moi, je veux que ça soit bon. Fait que c'est ça qui m'intéresse beaucoup.
Et donc, tu seras jamais pris à recevoir une critique que tu mérites pas non plus.
Bien sûr, mais je les entends toutes, moi. Mais je les prends pas plus quand ils sont dits tyranniques.
Oui, mais si quelqu'un est venu jouer dans ton histoire puis on vient de reprocher une torsion dans l'histoire qui est pas la tienne, ben là, t'es même pas obligé d'invoquer de oui, mais c'est pas moi.
Ah, bien sûr. Mais
toi, t'assumes tout.
J'assume tout, mais tu vois, dans mes yeux à moi, qui est adapté par Serge Boucher, c'est un cadeau du ciel. Ce dramaturge, c'est extraordinaire. Et puis, Serge a pris beaucoup de liberté, mais à chaque fois qu'il prenait une liberté, il me disait, qu'est-ce que t'en penses si j'allais là?
Hey, okay, donc...
c'est à toi, ça. Vas-y. Tu veux y aller, tu veux y aller. Puis des fois, je me disais, si tu as bonne affaire, Serge y va, je vais le suivre parce que j'y ai fait confiance. Donc, je fais beaucoup confiance. Celui-là, là, je suis en train de monter une équipe qui pourrait le faire pour la télévision et je choisis des gens avec qui je peux travailler puis être bien. Mais en même temps, moi, je crois beaucoup, Sylvain, à l'addition des talents. J'étais pareil quand j'étais manager. Ouais. Je suis pareil quand je suis producteur. Sont où les talents pour qu'on travaille ensemble?
Ouais.
C'est juste ça qui m'intéresse. Meilleur que moi encore.
Mais le José Lito Michaud, gérant d'artistes, est celui qui maintenant raconte des histoires puis fait la quête des histoires auprès des autres aussi. C'est quelqu'un de très organisé.
Oui.
Je parlais hier avec le journaliste du Devoir, Sylvain Cormier.
Oui.
Puis je disais que t'es pour jaser aujourd'hui, puis il disait, lui, dans son temps de gérant, il est arrivé avec une structure organisationnelle que l'on ne connaissait pas au Québec.
Ah, mais mon jeune prêtre, c'est bien combien en plus, je l'aime tellement, puis il écrit tellement bien en plus.
Ça, mais il disait, la fameuse liste des chansons qui est distribuée aux journalistes, le setlist.
Ah oui. Ah oui, c'est vrai.
C'était un setlist qui était complet avec le nom des auteurs, compositeurs, le nom des musiciens.
Bien sûr.
Alors que d'habitude, on recevait un fax, c'était tout croche, c'était écrit à main, on avait de la misère à déchiffrer ça, c'était comme une prescription.
Ouais, moi, je suis très organisé et très respectueux des crédits. Moi, je prendrai jamais un crédit qui ne m'appartient pas. Jamais. On est autour d'une table en brainstorming.
Ouais.
Puis là, je vais dire, Sylvain, il y a une extraordinaire idée. Écoutez ça, ce qu'il a dit, là.
Ouais.
Je prends pas ça, moi. Si c'est moi, j'ai tendance à l'envoyer à quelqu'un d'autre aussi. Je trouve ça important de respecter les gens qui travaillent autour de nous.
Dans l'organisation.
Il n'y a pas de confusion, c'est moi qui décide. Mais j'ai pas besoin de le dire.
Ah oui.
Il y a quelqu'un qui dit l'autre jour, mon fils, il dirige une équipe, là, des fois, là. Puis il me dit l'autre jour, je lui ai dit, j'étais le patron. Je dis, on dit pas ça, Antoine. Je veux dire, on agit comme quelqu'un de responsable qui fait que s'il y a un problème, ils vont aller vers toi. Ah, il dit, ah oui, c'est vrai. Moi, là, jamais je veux dire, c'est moi qui décide. Au contraire, je dis, apporte-moi encore une meilleure idée. Moi, je suis très stimulant pour mes équipes.
C'est ça. Sauf que c'est organisé, c'est ça. On est loin du chaos. Pourtant, ton prochain projet, ça s'appelle le chaos. Et on parle d'équipe. Tu t'entoures pas non plus avec les moindres.
Non.
Il y a Daniel Bélanger qui travaille là-dessus.
Daniel va faire tout. D'abord, c'est l'histoire d'un spectacle.
Oui.
Ça va nous aider à comprendre pourquoi Daniel est là, qu'est-ce que t'en penses. Daniel, donc, c'est ça. C'est 10 personnes qui vont voir, non, c'est 1000 personnes qui vont voir un concert des Nouveaux.
Mm-hmm.
Des Nouveaux qui va être campé par Simon Morin, qui est hallucinant. Et ce concert-là, c'est le 150e d'une tournée. Ça se termine à l'Impérial de Montréal. Il a fait le tour du monde, un peu à l'instar de Simple Plan à un certain moment donné. Il revient à Montréal, et puis c'est le concert le plus attendu. Les billets sont sortis en quelques minutes. Donc ça, c'était facile pour moi de créer cet univers-là. Je le connais bien. Et tout d'un coup, ce gars-là chante. Il rencontre, le matin, il organise un concours. 10 personnes vont se retrouver dans la section VIP, puis vont pouvoir le rencontrer avant dans le Green Room.
Mm-hmm.
Il prépare tout ça. Mais ce qu'ils savent pas, les gens, c'est ceux qui sont dans le Green Room, et qui vont être dans la section VIP, ils sont le plus près possible de la bombe qui va exploser.
Parce qu'il y a une bombe qui va péter.
Parce qu'il y a une bombe qui va péter à la sixième chanson. Tout le répertoire, tous les répertoires de ce show-là, il fallait être crédible. Il faut que moi, comme téléspectateur, d'abord, que je dise « Wow, ça marche ce show-là ». Donc, j'ai dit, la meilleure personne pour écrire mes hits, ça va être Daniel Bélanger. Mm-hmm. Donc, je coproduis ça avec André Dupuis, parce qu'André Chiamelga est un producteur exceptionnel. On fait tout ensemble.
C'est une longue histoire.
Oui, une longue histoire. André Dupuis. Oui, c'est beaucoup un homme extraordinaire. Puis, après ça, là, on a appelé des auteurs. Geneviève Simard qui a fait des Disappearances. Gabriel Sabourin a fait plusieurs textes aussi. Pascal Renaud-Hébert qui fait mon entente avec nous. Il y a Sylvie Bouchard qui est conseillère à la scénarisation, qui travaille beaucoup avec moi, de concert avec moi. Bref. C'est extraordinaire. Et là, j'ai demandé à Daniel de faire les chansons du concert. Faut qu'on y croit. Fait que là, ça, on va avoir un vrai concert, ça va péter. Mais on va comprendre, dans trois temporalités, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant et après. C'est pour ça que c'est si complexe à écrire. Mais on est très avancé, il nous reste trois textes à écrire.
Parce que c'est se mettre la barre haute d'annoncer le point tournant de sa série.
Bien sûr.
Dans le titre.
Bien sûr.
Et dans la prémisse. Alors que t'avertis tout le monde le punch, là, voici le punch.
Ouais, mais il y a un autre punch qui est plus fort que ça encore, parce que...
Plus fort que...
plus fort que ça. Plus parce que tu vas savoir qui a posé cette fameuse bombe-là. Tu vas penser que c'est quelqu'un, mais ce ne sera pas cette personne-là. Et tu vas apprendre... Mm-hmm. Moi, je veux montrer aussi toute la vie d'une rockstar. Je veux montrer ça. Ça ne sera pas une rockstar, mettons, comme Eric Lapointe. Ouais. Ça va être une pop star à la Harry Styles. Beaucoup plus très britannique, ce qu'on veut donner comme son. Là. Ça va être très bon, ça, ce qu'on veut faire comme image. Mais ça va être vraiment... Je veux montrer les coulisses. Je veux montrer ce que c'est. Ce que c'est... Tu sais, je me souviens d'une confidence que quelqu'un m'avait faite un jour qui vivait un immense triomphe.
Oui.
Et qui me dit, Sylvain, puis tu connais ça, t'as fait tellement longtemps, t'es dans ce métier-là aussi, autour des productions de spectacles. Mm-hmm. Cette personne vivait un immense triomphe. Peut pas être plus populaire que ça. 57 Zénith à faire à Paris, à France. Et elle me dit, je suis pas heureuse. Là, je parle pas d'Isabelle, là, c'est quelqu'un d'autre qu'ils avaient oublié. Et qui me dit ça, j'ai dit, pourquoi t'es pas heureuse? Elle dit, je suis brûlée. Puis là, il y a un tiraillement. Je regarde Shawn Mendes sur Netflix cette semaine, le documentaire, puis à un moment donné, il sent mal parce qu'il craque au Brésil, puis il dit, je voudrais ça retourner avec mes amis, fumer un joint, puis jouer dans un terrain de soccer, puis avoir du fun. Et ça, je veux beaucoup représenter, je veux beaucoup que les gens comprennent que d'être populaire, ça vient avec quelque chose derrière, et on va en parler beaucoup dans la série.
Tu te distingues des autres, sauf qu'en même temps, ben t'es isolé.
C'est inévitable. C'est inévitable. Tout le monde qui arrive au sommet, c'est inévitable.
Comme les gars des Beatles le disaient. Si, au moment de la Beatlemania, si on pouvait un soir sortir dans un pub, ben aller prendre une bière.
Et je veux dire,
seulement que ça.
Il y avait besoin de l'ordinaire, Sylvain, tu te rends-tu compte? Il vivait l'extraordinaire, il voulait de l'ordinaire.
Ou il voulait voir un film, il était obligé de se louer une salle de cinéma après les heures.
Mais c'est parce que même, je voyais Céline Dion qui disait un jour, « Hey maman, tu auras pu, toi, magasiner une boutique. » La boutique va venir à toi.
Ouais.
Tu comprends? Il y a un moment donné, puis Céline aussi, elle l'a dit, je vais être dans plusieurs entrevues avec elle, c'est dur, la solitude qu'il y a avec ça. Les gens vont dire, oui, mais au prix qu'elle paye. Non. Je dis juste qu'il y a des revers, puis c'est intéressant parce qu'il y a une série qui est mon coup de cœur actuellement là, sur tout.tv. C'est la série de Véro qui parle de l'ombre et la lumière, le titre exact, où elle revient sur des gens qui ont brillé, qui ne brillent plus, des gens qui ont vécu, qui ont dû sortir de côté. C'est très intéressant. Moi, c'est mon coup de cœur. Je l'ai mis sur mon Facebook aujourd'hui. C'est mon coup de cœur parce qu'on voit justement les revers et l'envers de ce décor.
Mais ça, José Lito, ça m'étonne pas de toi que tu aimes cette série-là. Parce que on dirait que à peu près tous tes projets partent d'un ancrage, le moment de brisure, l'avant et l'après.
Mon Dieu, t'es bon. Ça s'appelle le point de rupture. Puis t'as raison, c'est toujours mon motif à moi. Pourquoi?
Qu'est-ce qui fait qu'avant c'était ça et désormais,
c'est ça.
Ça va être d'autres choses.
C'est bon. C'est exactement ça. C'est une belle observation parce que je pensais que j'avais réussi à le cacher, le gars, je bégaye. Mais oui, parce que pour moi, il y a beaucoup de cassures dans ma vie personnelle.
Oui.
Puis à un moment donné, j'ai l'impression que on doit rebondir ou on doit s'effondrer.
Mais ça doit être insupportable à un moment donné avoir autant de cassures.
C'est insupportable, oui. Je pense que ce qui est plus insupportable, c'était parce que j'ai réussi, j'étais en train de le régler, c'était l'hypervigilance que j'avais.
Ouais.
Ça, c'était dur. Ça, c'était dur au quotidien. C'était insupportable.
L'hypervigilance, là, pour...
État d'alerte élevé qui fait que, habituellement, je t'aurais parlé discrètement. Mm-hmm. J'aurais regardé toutes les issues de secours qu'il y a ici. Ouais. Savoir, j'aurais compris si la fenêtre se débarre quelque part. Mm-hmm. J'aurais vérifié, je me serais jamais mis d'eau à notre fameux technicien derrière nous. Je me serais mis dans le coin comme je fais toujours. Là, je fais plus ça.
Ah oui?
J'ai réussi à faire ça grâce à l'hypnose et c'est en train de me sauver la vie. C'est tout nouveau, là. Ça doit date de 3-4 mois.
Mais c'est pas facile de vivre avec une anxiété telle, M. Michaud?
Non, c'est...
c'est pas... Non, ben une anxiété...
Je te vois, puis tout à l'heure, ton médecin, c'est formidable.
Non,
mais... Il m'a tendu à des choses.
Non, mais
c'est vrai.
24 heures par jour, parce que même quand on dort, l'anxiété...
Un petit bruit de réveil.
Ça s'est éprouvé, oui. Ça prend pas grand-chose. Hein.
J'avais le sommeil très léger. J'étais toujours fatigué, mais comme j'ai une énergie... qui est surhumaine, tu comprends? Oui. Moi, quand je suis fatigué, je suis encore super fonctionnel. Tout le monde, des fois, moi, je suis brûlé, j'aimerais essayer de brûler comme toi. C'est toujours, puis on m'appelle la machine. Je t'ai carré de me faire dire la machine, là. Moi, t'en es avec toi. Parce que je suis toujours capable de trouver des solutions, tout ça. Mais là, je te dirais qu'à 55 ans, on dirait que mon corps, il pouvait plus prendre ça, puis ça allait péter aux frettes. Je le savais. Là, je voyais que ça s'en allait vraiment mauvaise place. Puis là, j'ai dit, je pense que l'hypnose, depuis le temps que tout le monde m'en parlait, et ça me, c'est en train de me sauver la vie, je suis une autre personne. Mais ça paraissait pas auprès des intimes, le
donc,
savais.
Donc, OK, qu'on se le tienne pour dire, José Lito Michaud, à partir de maintenant, va être encore plus énergique et moins anxieux.
Je dirais non, plus calme.
Plus calme. Non, plus mais, calme. Mais sans blague, là, ça va finir, ça finit par recalibrer, recentrer toutes tes énergies.
Mais il était temps.
Il était temps, oui, pour toi, mais pour les autres.
Ah, les autres, ils aiment ça, t'es avec moi. C'est drôle, ce que je vais te dire là. C'est drôle, hein? Vraiment drôle. Je suis pas un avant, parce que dans la vraie vie, dans l'intimité, je ne parle pas beaucoup.
Mais un hyper vigilant, c'est toujours, il y a toujours quelque chose.
Oui, mais...
Mais on sait pas si...
Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça paraissait pas. Ma blonde le sait, parce que ça fait 26 ans qu'elle est avec moi. Mm-hmm. Mais ça paraissait pas. Mes amis ont tombé à terre quand ils ont vu ça. Ils ont dit, oh mon Dieu, je viens de comprendre que tu t'assois d'eau quand on va au restaurant. Quand je l'ai dit publiquement un jour, là.
Ouais.
Ils ont fait, ben voyons donc, je m'ai jamais dit ça. J'en parle pas de ça, moi.
Mais c'est beaucoup de stratégie.
Ce n'est que ça. Ce n'est que ça pour dissimuler cet état-là qui est en état de... Ah, c'est épouvantable.
Donc, c'est accompagné de toc puis de...
Bien sûr. Les poignées de porte, comment je les barre. Les lumières, longtemps, c'était les lumières. Parce que quand il y avait de la violence, on fermait toutes les lumières puis on sautait à Breaker. Ouais. On fermait Breaker pour nous faire de la violence chez nous. Fait que ça, c'était rough. Et ça faisait en sorte que, ça veut dire quelques mois, quand l'électricité pète, là, chez nous, ça me demandait un courage. Mais le fait d'avoir des enfants... Ça m'a aidé énormément parce que je ne voulais pas que ces enfants-là soient anxieux. Je ne voulais pas ça. Fait que je camouflais tout. Fait quand, puis chez nous, c'est une maison que quand t'es plus de lumière, là, si on est un petit peu retiré, ce qui fait qu'il fait noir. Puis moi, je disais à mon fils, j'ai peur de ne pas avoir peur, Antoine. Fait que le fait de lui dire, c'est comme si je me rassurais moi-même.
Oui, tu convainquais deux petits gars, Antoine et le petit José Lido.
Bien sûr.
C'est parce que l'autre chose aussi, c'est que quand on a vécu beaucoup de chaos, disons,
ouais.
Ou de très mauvaises surprises, mm-hmm. Parce qu'un enfant qui est ballotté, c'est un enfant qui est souvent surpris, qui
toujours
est souvent
surpris.
Étonné.
C'est
et c'est pas des bonnes surprises.
Ben non.
Donc, toi, les surprises, tu vas avoir une allergie totale à ça.
Disons que je veux savoir...
Tu veux savoir la surprise?
Mm-hmm. Mm-hmm. J'avais jamais fait le lien. J'aime pas les surprises. J'aime pas être surprise du tout, du tout, du tout. Puis je me souviens...
Être pris de court.
Être pris de court. Et quelqu'un qui me dit, t'as pas le choix.
Te placer devant un fait accompli.
Accompli, impossible pour moi. Là, tu sauras que le contrat, c'est impossible de s'en sortir. Believe me. Comment s'en sortir? Moi, tout vendre s'il faut. Ça, mm-hmm. Moi, je suis intraitable là-dessus. Il y a personne qui me pogne dans la vie. Il y a personne qui va me saisir avec quelque chose. Non. On travaille ensemble. Puis quand je signe un contrat, je regarde toutes les clauses de sortie. Ouais. Ça va là-dedans aussi.
Ouais, mais ça, José Lito...
On devrait tous faire ça.
Ça, José Lito, c'est ce qu'on apprend avec l'âge à un moment donné. L'important sur un contrat, c'est pas ce qui t'unit, c'est ce qui te permet de te désunir.
T'as-tu appris ça? Ça, c'est l'affaire la plus importante. Es-tu d'accord, Sylvain?
Oui.
Ça, moi, j'arrête pas de dire, ne regardez pas tous les chiffres qui sont là. Allez à la dernière clause qui est écrite en beaucoup plus petit.
Oui.
Quand ça n'ira pas. Même chose quand on choisit un partenaire d'affaires. Moi, j'ai toujours dit à mon ami André Dupuis, je dis, André, il y a une affaire qui est formidable. Je le sais, quand on va être sur une petite chaloupe, en train de ramer parce que le bateau a pris feu,
mm-hmm.
On va être capable d'être ensemble encore dans la chaloupe. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Moi, je sais qu'avec lui, là, il peut arriver n'importe quoi. On va se regarder et on va dire, on emprunte un autre bateau. C'est ça, André Dupuis.
José Lito Michaud, si on se dit qu'on se donne un petit rendez-vous dans 2 minutes, est-ce qu'on reste dans la même chaloupe?
Ouais. Écoute, c'est un bonheur sans nom ce que je vis actuellement. C'est pas de la flagonnerie, je sais pas faire ça. Mais ben, il se passe de quoi, là?
Ben, vous êtes bien gentil, M. Michaud. On se retrouve dans 2 minutes à Entre nous avec José Lito Michaud.